Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu ardu, comme ça, mais qui est vraiment, vraiment essentiel en radio. Les balunes et les ununes. On a épluché un rapport technique assez dense hein, pour essayer d'y voir clair.
Absolument.
L'objectif, comprendre enfin la différence entre les deux, pourquoi c'est si important de bien choisir l'interface entre l'antenne et le câble, et surtout comment éviter les erreurs courantes. Parce qu'on va voir, un mauvais choix, ça peut vraiment plomber les performances.
C'est tout à fait ça. Une mauvaise adaptation à cet endroit critique, ça peut entraîner des pertes de signal bêtes, augmenter le bruit qu'on reçoit, et même causer des interférences assez pénibles. C'est frustrant, quoi, d'avoir du bon matériel si la liaison coince.
Clairement. Alors, allons-y. On parle donc de balun, balance to unbalanced, et dunun, unbalanced to unbalanced. Bon, rien que les noms, ça donne une petite idée, mais creusons un peu.
Oui, ça oriente déjà.
Ok, alors, le cœur du problème, si j'ai bien tout suivi, ça survient surtout quand on veut brancher une antenne qui est symétrique, comme un dipôle par exemple.
Oui, l'exemple type.
Sur un câble coaxial. Et lui, le coaxial, il est asymétrique.
Exactement. Le coaxial, c'est un conducteur central dans une gaine qui sert de retour. Théoriquement, le signal reste bien confiné entre les deux. Mais si on branche ça direct sur une antenne symétrique, sans précaution, l'équilibre est rompu. Une partie du courant radiofréquence, au lieu de faire son travail à l'intérieur, s'échappe. Elle se met à circuler sur la surface extérieure de la gaine du câble.
Ah oui.
Et ça, c'est le fameux courant de mode commun.
Attends, donc ça veut dire que le câble lui-même se transforme en une partie de l'antenne ?
Il rayonne.
C'est exactement ça, il se met à rayonner.
Ça doit tout fausser.
Complètement. D'abord, ça perturbe le diagramme de rayonnement de l'antenne. Elle ne rayonne plus là où on voudrait. Ensuite, cette gaine qui rayonne devient aussi une super antenne pour capter tous les parasites électriques du voisinage en réception. Le bruit augmente. Et le pompon, c'est que ça peut même causer des retours de HF désagréables dans la station, ce qu'on appelle parfois le RF in the shack. Vraiment pas top.
D'accord, je vois le tableau. Et c'est là que le balloon intervient, pour remettre de l'ordre. Précisément, le balloon, c'est le médiateur. Il fait le pont entre le monde symétrique de l'antenne, comme le dipôle, et le monde asymétrique du câble coaxial. Sa fonction principale, c'est de bloquer ce courant de mode commun sur la gaine. Il l'empêche de circuler à l'extérieur, tout en laissant passer le signal utile, le mode différentiel, à l'intérieur. Et il force les courants sur les deux brins de l'antenne à être bien égaux et opposés. C'est crucial.
Et j'ai vu dans les sources qu'on fait une distinction importante, balun en courant ou balun en tension.
Ah oui, c'est fondamental. Le balun dit en courant, souvent de type guanella, son boulot c'est de forcer l'égalité des courants. C'est généralement le plus efficace pour connecter une antenne. Pourquoi ? Parce qu'il s'attaque directement à la source du problème, le courant de gaine. Et il est plus robuste, plus tolérant aux petites imperfections de l'antenne, qui sont inévitables en pratique.
D'accord, et on les trouve en quel ratio ?
Souvent 1.1, c'est idéal pour un dipôle classique dont l'impédance est proche de 50 ou 70 ohms. Ou alors en 4.1, par exemple pour une antenne boucle ou un dipôle replié, qui ont une impédance plus élevée, autour de 200-300 ohms.
Ok, ça c'est pour le balun en courant. Et l'autre, le balun en tension.
Alors lui, le balun en tension, type Rutroff, il s'assure que les tensions aux bornes de l'antenne sont égales par rapport à la masse. Le souci, c'est qu'il ne garantit des courants équilibrés que si l'antenne est parfaitement symétrique, ce qui est rare. Du coup, il est moins adapté pour cet usage, avec les antennes. On le garde plutôt pour d'autres circuits RF spécifiques.
Très clair. Donc pour une antenne symétrique, on part sur un balun en courant, en général. Mais alors, l'unune, si le balun gère symétrique vers asymétrique, l'unune, lui, il reste en asymétrique.
Tout à fait. L'unune, unbalanced, il ne change pas le mode. Il travaille uniquement entre deux systèmes asymétriques. Son rôle, c'est d'être un transformateur d'impédance. Point. Typiquement, on va l'utiliser entre le coaxial 50 ohms, qui est asymétrique, et une antenne qui est aussi asymétrique par nature.
Comme une antenne filaire alimentée en bout, une N-feed.
Exactement. Une N-feed ou une antenne long fil, ce sont des antennes asymétriques. Et la grosse différence avec le balun, c'est que l'unune, structurellement, il a une connexion de masse commune entre l'entrée et la sortie. Il n'y a pas d'isolation galvanique, comme dans un bon balun en courant. Le courant sur la gaine fait partie du fonctionnement normal du système avec un unune.
Ah, d'accord.
C'est pour ça qu'avec ces antennes N-fed long fil, il est absolument crucial d'avoir un bon système de contrepoids ou une bonne prise de terre. Ça fait partie de l'antenne, en quelque sorte.
Je comprends mieux. Et j'ai vu passer des ratios d'impédance assez variés pour les une-une. 9.1, 49.1, parfois 64.1.
Oui, tout à fait. Ces ratios servent à adapter l'impédance très différente de ces antennes asymétriques aux 50 ohms du câble coaxial. Par exemple, un une-une 9.1, c'est courant pour les antennes dites « long fil ». Leur impédance est souvent autour de 450 ohms. Le 9.1 ramène ça vers 50 ohms. Ça aide beaucoup la boîte d'accord.
Et les ratios très élevés, 49.1 ou 64.1 ?
Haute à leur point d'alimentation, on parle de plusieurs milliers d'ohms, 2500, 4000 ohms. Donc il faut un gros ratio de transformation comme 49.1 pour environ 2500 ohms ou 64.1 pour environ 3200 ohms pour redescendre vers 50 ohms.
Ok, ok, c'est limpide maintenant. Donc si on devait résumer de façon très simple pour ne pas se tromper.
Ben, en gros, si ton antenne est symétrique, dipôle, yagi, quad, boucle, il te faut un balloon pour gérer la transition symétrique-asymétrique et bloquer les courants de gain. De préférence un balloon en courant, avec le bon ratio, souvent 1.1 ou 4.1.
D'accord.
Et si ton antenne est asymétrique, une NFED, un long fil, une verticale sans plomb de sol, parfait là, c'est un une-une qu'il faut. Son rôle est d'adapter l'impédance. Il faut choisir le bon ratio, 9.1, 49.1, 64.1, etc., selon l'antenne.
Parfait, c'est vraiment plus clair. On voit bien que cette petite boîte-là, entre le câble et l'antenne, c'est pas juste un gadget. C'est un composant essentiel pour que tout fonctionne comme prévu.
Ah, ça oui, c'est un élément clé. Et d'ailleurs, ça soulève une autre question, peut-être pour une autre fois. Ces ballons et unones, ils contiennent souvent un noyau en ferrite, une sorte d'anneau ou de barreau. Comment le choix de ce matériau précis, le type de ferrite, sa taille, comment ça impacte vraiment les performances ? Je pense aux pertes qu'il peut introduire, à la bande de fréquence sur laquelle il est efficace et à la puissance qu'il peut encaisser avant de s'atuler ou de chauffer. Parce qu'un mauvais choix de noyau, ça peut complètement ruiner un bon design de ballon ou du none.
Ah, excellente question. Ça montre bien qu'on n'a jamais fini d'explorer les détails techniques. Merci beaucoup pour ce deep dive. C'était passionnant et très éclairant.